Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Olivier Roux.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons aujourd'hui l'économiste togolais Kako Nobuko. Bonjour Kako Nobuko.
Bonjour.
Kako Nobuko, vous êtes agrégé des facultés de sciences économiques, professeur titulaire à l'université de Lomé au Togo. Vous êtes aussi directeur de l'Observatoire de l'Afrique subsaharienne au sein de la Fondation Jean Jaurès, un think tank très proche du Parti Socialiste Français. De 2013 à 2015, vous avez été ministre de la Prospective au sein du gouvernement togolais, puis responsable de la francophonie économique au sein de l'Organisation Internationale de la Francophonie, poste dont vous avez été évincé en raison, apparemment, de vos positions très critiques sur le franc CFA. Nous en parlerons au cours de cette émission. Nous parlerons du franc CFA. Nous allons voir si vos critiques et celles de quelques autres économistes africains commencent à porter leurs fruits, mais nous parlerons aussi de l'économie des pays africains et en particulier de leur secteur agricole. Et une première question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Jean-Pierre vient de le dire, vous avez été directeur de la francophonie économique. Cette mission s'est achevée abruptement au mois de décembre en 2017, lorsque vous avez été congédié de l'OIF en raison de vos positions critiques sur le franc CFA. À l'époque, nous avions essayé de vous inviter, mais vous aviez décliné. Avec le recul, quel regard portez-vous sur votre éviction de l'OIF ?
Oui, disons que les organismes internationaux ont des règles qui sont très strictes. Ma mission, c'était comment faire en sorte que les économies francophones puissent atteindre les objectifs du développement durable. Et pour moi, il était évident que la question des politiques publiques était cruciale. Et qui dit politique publique, dit politique budgétaire, mais aussi politique monétaire. Et donc, je pense que j'étais tout à fait indiqué pour parler de l'impact des politiques monétaires sur la croissance et la création d'emplois dans l'espace francophone.
Alors, comment expliquez-vous votre limogeage ?
Oui, c'est quelque chose qui, à mon avis, relève de, si je veux être gentil, de l'extrême prudence de nos chefs par rapport à la question monétaire. C'est une question qui...
Quand vous dites nos chefs, les chefs d'État ?
Ben, les chefs d'État et puis... là, en l'occurrence, la secrétaire générale de la francophonie.
L'ex-secrétaire générale à l'époque, Michaël Jean. Vous pensez que c'est de sa propre initiative que vous avez été limogé ?
À ce qui est sûr et c'est public, c'est que le président Ouattara, en septembre 2017, en marge des assemblées générales des Nations Unies, avait dit clairement à Madame Jean qu'il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas évincé de mon poste. Suite aux propos que je tenais sur le franc CFA. Mais ça, c'est public. Hein. Ça s'est dit devant les deux délégations.
Et donc, c'est le président Ouattara qui a obtenu votre tête ?
Ça, c'était en septembre 2017. Et j'ai été évincé fin novembre 2017 après une tribune suite à la visite de M. Macron à Ouagadougou. Visite au cours de laquelle il avait dit aux étudiants burkinabés de ne pas être bêtement anticolonialistes. Et que la question du franc CFA n'était pas une question française, que c'était une question africaine. Et donc, j'avais dit simplement que c'était effectivement la responsabilité des chefs d'État africains d'assumer la dignité qu'il faut pour notre continent. Et je ne trouvais pas normal qu'un président français aille agir de la sorte.
Alors, votre éviction n'a pas suffi à calmer le débat et le président Alassane Ouattara reste très irrité par ce débat sur le franc CFA. Il l'a redit il y a une dizaine de jours à Paris où il était reçu par le président Macron. À sa sortie de l'Élysée, le chef de l'État ivoirien a fait cette mise au point sur le franc CFA.
Je crois qu'il faut que ce débat cesse. Des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre modèle. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque Centrale d'État de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Et c'est une monnaie, bien sûr, pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun, mais ça, c'est notre affaire.
Le président ivoirien Alassane Ouattara, à sa sortie d'une rencontre avec le président Macron, il dit au début de sa déclaration, il faut que ce débat cesse. Alors, Kakonou Koupo, est-ce que vous allez vous taire? Est-ce que vous allez cesser de parler du français?
C'est certainement pas. Non, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut souligner. La première chose, c'est que le président Ouattara fait son intervention à l'Élysée pour une monnaie africaine qui serait gérée exclusivement par l'Afrique. Donc, d'un point de vue formel, ça pose problème parce que les symboles comptent. Maintenant, sur le fond, ce n'est absolument pas un faux débat. On peut dire que c'est un vieux débat parce que la question de fond, c'est ceux qui pensent que la monnaie est neutre, donc elle n'a pas d'impact sur l'activité réelle, et ceux qui pensent que la monnaie n'est pas neutre. Donc, quelle influence les paramètres économiques? Mais c'est un débat qu'on a depuis les classiques. Du coup, ce n'est pas un débat neuf.
Quand vous dites les classiques, c'est les grands économistes classiques.
Bien sûr. Nous l'avions même déjà depuis les mercantilistes. Le débat de Jean Bodin et Malestroit sur l'origine de l'inflation.
Alors là,
en Espagne,
vous remontez
au XVIIe siècle. C'était déjà ce débat. On l'a eu ensuite entre Ricardo, qui pensait que la monnaie était neutre, versus Sismondi et Malthus, avec des gens comme Irving Fisher ou Marshall, qui pensaient que la monnaie était neutre, contre Keynes, qui pensait que la monnaie n'était pas neutre. Et donc, ce n'est absolument pas un faux débat. Après, on peut dire que les termes ne sont pas forcément bien posés. Mais ça, c'est l'appréciation de chacun.
Comment analysez-vous la prise de position d'Alassane Ouattara? Est-ce que la Côte d'Ivoire aurait beaucoup à perdre si le franc CFA était profondément réformé ou voire s'il disparaissait? On dit souvent que la Côte d'Ivoire, qui est la première économie du MOA, est la principale à bénéficier de cette monnaie qui est forte.
Non, moi ce que je me suis dit, c'est que M. Ouattara a rappelé tous ses titres et donc j'ai eu l'impression qu'il avait une relation quasiment affective avec cette monnaie. Je n'ai pas senti la position ivoirienne dans ses prises de position à lui. Moi, j'ai beaucoup plus senti un affect particulier pour cette monnaie qui, effectivement, épouse sa carrière professionnelle.
Et du point de vue de l'économiste, pour la Côte d'Ivoire, est-ce que cette monnaie est importante?
Cette monnaie est importante pour toutes les économies de la zone franc, mais à des degrés divers. Mais ce que je remarque, c'est que, comme nous n'échangeons pas beaucoup entre nous, parce que nous restons dans une insertion primaire au sein du commerce international.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nous restons dans une insertion primaire?
Ça veut dire qu'on fait du cacao, on exporte le cacao sans le transformer. On fait
de plus en plus, quand même.
Oui, mais quand je prends le coton, on transforme que 3% du coton. Et donc, la question, c'est de savoir si la Côte d'Ivoire a un intérêt particulier à garder le CFA. Bon, le coton... on sait que c'est en dollars qu'on le vend, les sociétés cotonnières. Quand l'euro s'apprécie, on voit tout de suite que leur marge bénéficiaire diminue. Le cacao, c'est différent parce que la Côte d'Ivoire est quasiment monopolaire. Et c'est à Londres que tout ça se fait. Et donc, je vois pas trop l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de passer par l'euro avant d'aller à la livre sterling.
D'accord. Mais
moi, j'ai proposé
peut-être
hier plutôt un panier.
Peut-être n'y a-t-elle pas intérêt, mais est-ce que le fait d'avoir le franc CFA pour monnaie fait que la Côte d'Ivoire exporte essentiellement du cacao sans le transformer pour la plus grande part. Est-ce que le franc CFA a un rôle dans cette insertion primaire, comme vous dites, de la Côte d'Ivoire dans l'économie mondiale?
Oui, parce que comme le franc CFA est une monnaie forte, ben ça incite à importer les biens et services transformés plutôt qu'à les transformer sur place.
Parce que le fait que ce soit une monnaie forte fait que ça revient moins cher à l'importation.
Bien sûr. Quand vous prenez le riz, par exemple, on pourrait développer la production de riz dans tous nos pays, mais on préfère importer le riz thaïlandais parce que ça nous donne l'impression de coûter moins cher. Et donc, c'est ce qui est pervers avec le franc CFA, c'est que ça nous garde dans une logique de rente. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est forte, donc elle nous pénalise côté exportation et on est incité à importer. La preuve, quand vous étudiez le taux de couverture du commerce extérieur dans nos pays, vous voyez que nos exportations ne couvrent que les trois quarts de nos importations. Donc on a des balances commerciales structurellement déficitaires.
Question de Julien Clémenceau.
Pour ses défenseurs, le franc CFA a quand même l'avantage de rassurer les investisseurs non africains. Des investisseurs qui vont faire de la transformation pour certains sur place et participer au processus d'industrialisation. Et puis, grâce à la parité fixe apportée par l'euro, permet de lutter et de limiter en tout cas l'inflation. Alors vous y voyez quand même un obstacle au développement ?
Ah oui, clairement. Parce que déjà, pour attirer les investisseurs étrangers, je peux vous dire que... Les premiers marchés, c'est le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud. Ils n'utilisent pas le franc CFA, mais ils ont des matières premières comme le pétrole. Bon, donc c'est pas le CFA qui va attirer les investisseurs étrangers. Après, sur la question de l'inflation, les gens confondent une faible inflation et de la déflation. Vous aurez observé que dans le dernier rapport de la Banque de France sur la zone franc, ce rapport dit explicitement, attention, on est à des taux d'inflation de 0,6%. C'est de la déflation. Parce que l'objectif de la Banque centrale, c'est un taux d'inflation de 2%, avec une marge d'erreur de 1%.
Expliquez-nous le processus de déflation.
De déflation, c'est que les gens sont très pauvres, et donc ils ne consomment pas, et du coup les prix baissent. Et les marges bénéficiaires sont très faibles, donc les entreprises ne recrutent pas, donc il y a du chômage. Et les prix baissent encore plus. Et elles recrutent encore moins. Et donc, c'est des économies où vous avez une pauvreté énorme. Les indicateurs de développement humain le montrent à volonté. Et vous avez cette stabilité des prix. Moi, je dis le malade meurt guéri. C'est comme ça que je résume le discours des pro-CFA.
Pour vous, c'est fortement lié à cette monnaie forte, au CFA, ce processus de déflation ?
Ah oui, parce que la contrepartie de cette monnaie forte, rattachée à l'euro, c'est la répression financière. On n'a pas accès au crédit à des taux d'intérêt inférieurs à 2%. C'est 12, 13, 14, 15%. Pour des économies qui croissent à 5%, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de transformation structurelle. Vous ne pouvez pas créer des industries, vous ne pouvez pas créer des emplois. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que pour une population qui double tous les 25 ans, comme la population de la zone franc, l'impératif, ce sont les emplois. Ce n'est pas une inflation à 0%, ça ne veut rien dire.
Kalkonubuko, voilà plusieurs années, longues années que vous bataillez sur le front du franc CFA, ça vous a créé beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez réussi à réunir autour de vous de gros bataillons d'économistes, de dirigeants ? Est-ce que vous gagnez du terrain ?
Oui, en tout cas, qualitativement, nous gagnons du terrain. Et à Bamako, il y a quelques jours, nous avons lancé les états généraux du franc CFA. Donc, nous étions 8 dans cette cellule de coordination avec des gens comme Mamadou Koulibaly de la Côte d'Ivoire, Martial Zébélinga du Cameroun, Madame Aminata Draman Traoré, Demba Moussa Dembélé et d'autres encore. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de think tank continental pour que dans chacun des pays, la base se saisisse de la question monétaire, fasse des propositions et que nous puissions ensemble construire ce que nous appelons des alternatives au CFA. Notre objectif, ce n'est pas simplement de critiquer le CFA, c'est de proposer des alternatives crédibles. Et nous espérons que ça va marcher.
Mais le président Ouattara, à la fin de la déclaration que nous avons entendue, n'était pas complètement rétif à des réformes, à une espèce d'ouverture ?
Non, simplement, nos chefs d'État sont quasiment schizophrène, parce qu'il nous explique que le CFA, c'est une très bonne monnaie, qu'elle est solide, qu'elle est parée de toutes les vertus, et en même temps, ils veulent faire autre chose, une monnaie CDAO. On se demande bien pourquoi.
Que pense le président togolais Fornasimbe du CFA? Est-ce que vous avez réussi à le rallier à votre cause? Qu'est-ce qu'il en dit en privé?
Non, il avait donné une interview en 2010, je crois, dans The Africa Report, où il disait qu'il n'était pas contre une certaine dose de flexibilité.
Mais est-ce qu'il pousse cette question avec les autres chefs d'État? Est-ce qu'il est moteur pour une réforme? Le président Ouattara parle d'une réforme en son temps. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ce sera avant les élections de 2020 pour lui? Quelle est la position du chef d'État togolais?
Je la connais pas. En revanche, je connais celle des deux qui ont été mandatés officiellement pour la monnaie CDAO. Il s'agit des présidents Issoufou du Niger et Nana Akufo-Addo du Ghana, qui disent clairement que l'objectif, c'est d'arriver en 2020 avec une nouvelle monnaie.
Alors, vous nous fournissez une excellente transition, Kakolo Mukpo, parce que justement, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, on va l'entendre dans cet écho d'ici, écho d'ailleurs, dont vous êtes le grand invité. Nana Akufo-Addo était l'invité de l'émission internationale sur RFI tout récemment, et au micro de Sophie Malibaud, il revient sur la nécessité d'une monnaie commune.
Je pense que la monnaie commune pour l'Afrique occidentale aidera nous tous dans la région, aidera le commerce entre nous, aidera le développement de nos économies. Mais si on n'arrive pas à élargir le marché, un marché qui comprend tous ces 15 pays, l'Afrique occidentale, je pense que c'est un marché qui sera beaucoup plus dur, beaucoup plus profond, beaucoup plus performant pour nous tous. On est en train de négocier, on est en train de parler, de voir de façon où les Nigériens, nous-mêmes, les Guinéens, les Sierra Leonais, les Gambiens, les Libériens qui n'ont pas parti de la zone franc, comment on peut vraiment avoir une relation avec ce pays de la zone franc qui est positif pour nous tous, qui fait qu'on pourra pousser nos économies.
C'était donc le président Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, donc vous êtes complètement raccord avec sa prise de position?
Oui, bien sûr. Ce qu'il dit est fondamental, dans la mesure où une monnaie unique ou commune, c'est une bonne chose, mais pour moi, il faut qu'il y ait une vision, parce que ce qui pose problème dans la zone franc et qui va certainement poser problème pour la monnaie CDAO, c'est qu'on n'a pas de mécanisme alternatif à la monnaie lorsqu'il y a des chocs. Et donc, il y a une faible mobilité des facteurs, capital et travail. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité des prix et des salaires. On n'a pas de solidarité budgétaire. Le budget fédéral est très, très faible. Et les marchés financiers sont embryonnaires. Ce qui fait que nous avons tendance à demander beaucoup à la monnaie. Mais il n'y a pas que la monnaie, il y a tout le dispositif. Et je crois que c'est des réflexions qui méritent d'être menées. Il y a un autre élément que le Nigeria avait soulevé d'ailleurs, c'était quid des relations entre les pays de la zone franc et le trésor français au moment où on va passer à la monnaie CDAO. Vous savez que nous déposons au moins 50% de nos réserves de change auprès du Trésor français, en contrepartie de la garantie de la parité fixe, Euro-CFA. Donc, que vont devenir ces réserves de change quand on va passer à la monnaie CDAO?
Et votre position, c'est quoi?
Moi, j'ai proposé qu'on dépose les réserves à la Banque des règlements internationaux, à Bâle. Mais comme nos banques centrales n'appartiennent pas officiellement à cette BRI, il faudrait d'abord qu'elles s'y inscrivent et qu'ensuite on puisse faire, comme Madagascar le fait, ses dépôts. Au-delà, on peut voir avec les banques commerciales également.
Mais pourquoi faudrait-il que vous déposiez vos réserves, vous, pays africains, auprès d'une banque extérieure au continent?
Non, parce qu'il y a déjà une partie des réserves qui sont sur le continent.
Oui, mais pourquoi pas la totalité des réserves sur le continent?
Oui, c'est que moi je n'en fais pas une affaire de principe. La question, c'est de dire, est-ce qu'il y a suffisamment de réserves pour assumer les importations? Le problème que j'ai dans le cadre actuel, c'est que nos banques centrales sont indépendantes de nos États, mais vont déposer les réserves dans le ministère des Finances d'un pays étranger.
Oui, mais là, vous proposez de déposer les réserves de la monnaie commune, de la future monnaie commune de la CEDEAO auprès de la BRI, qui est aussi une banque de règlement international, qui n'est pas donc sous le contrôle exclusif des pays africains. Pourquoi ?
Non, parce que c'est la banque des règlements internationaux.
Donc ça vous paraît plus neutre ?
Ah oui, pour moi, c'est le parallélisme des formes qu'il faut respecter.
Mais par exemple, il faut que les banques centrales... les réserves des pays européens qui ont l'euro pour monnaie commune n'est pas à la BRI, n'est pas au FMI, n'est pas à la Banque mondiale,
Une partie à la BRI, parce que justement, la BRI a été créée pour régler les transferts entre la France et l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, en 1920. Mais en tout état de cause, ça me paraît... beaucoup plus neutre que de garder des réserves auprès du ministère des Finances d'un pays étranger.
Julien Clemenceau.
Donc, pour vous, le principal obstacle, est-ce que ce serait pas la position, la France, qui serait le principal obstacle à la réforme du CFA, l'adoption d'une nouvelle monnaie avec un nouveau fonctionnement et le dépôt de réserve à la BRI ou ailleurs?
Non, moi j'ai toujours pensé, et c'est le cœur de ma thèse, que le système CFA relève de la servitude volontaire. Moi, j'ai toujours pensé que les dirigeants africains gagnaient beaucoup dans ce système parce que c'est un système qui les protège vis-à-vis des défaillances de leur gouvernance.
Ils ont peur d'eux-mêmes.
Non, c'est-à-dire que quand le compte d'opération a été créé, c'était pour faire face au choc exogène.
Alors, le compte d'opération, expliquez-nous ce que c'est.
Voilà, c'est le compte sur lequel on loge une partie de nos réserves de change. Pour avoir en contrepartie la garantie de la parité fixe.
Auprès de la Banque de France.
Exactement. Et c'était pour faire face au choc exogène. Donc, c'est un mécanisme d'assurance. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que c'est devenu une assurance tout risque vis-à-vis des défaillances des gouvernants africains. Et que s'il n'y avait pas ce compte d'opération, beaucoup d'entre eux auraient déjà perdu le pouvoir. Comme ça s'est fait dans d'autres pays, notamment le Ghana, en novembre 2016... quand Mahama perd le pouvoir parce que le CEDI avait perdu 40% de sa valeur en un an. Il a été sanctionné pour ça. Par ailleurs, ce système CFA, avec ses trois caractéristiques, la parité fixe, la garantie de convertibilité et la libre circulation des capitaux, c'est un véhicule d'accumulation hors du continent. Parce qu'on peut s'acheter des appartements à Paris, on peut avoir des comptes bancaires à Paris. Et donc, même pour les grands groupes français qui sont en Afrique, c'est facile de rapatrier de manière légale les bénéfices.
Pour bien comprendre ce que vous nous dites, le franc CFA, c'est à la fois un instrument de maintien au pouvoir de gouvernements incompétents et deuxièmement, un instrument de corruption et
non,
de détournement de fonds ?
Non, un instrument d'accumulation de richesses hors du continent, mais de façon tout à fait légale. Et c'est pour ça que ma critique me semble fondée, parce que ce système... allait très bien dans des économies extraverties où on estimait qu'on ne pouvait pas créer de la richesse et garder l'argent sur place, qu'il fallait faire sortir l'argent de la zone. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est la transition pour nourrir le marché intérieur africain. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une réflexion sur la capacité de notre système monétaire et financier à assumer cette fonction de financement de l'économie intérieure et pas simplement d'accompagner ce que j'appelle l'extraversion réelle.
Question de Julien Clemenceau de Jeune Afrique.
Alors, Kekono Boukou, vous n'êtes pas le seul à batailler contre le franc CFA. Un économiste sénégalais, Samba Sylla, et une journaliste française, Fanny Pinjot, ont récemment publié un livre aux éditions de La Découverte. La thèse de ce livre, c'est que le franc CFA est une arme invisible de la France-Afrique, que la France se sert de cette monnaie pour maintenir ses positions en Afrique, et qu'enfin, il y aurait finalement un complot français contre l'Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses ?
Il y a une dimension qui est complémentaire. Bon, évidemment, ce sont des amis, hein, Fanny Pinjot et Ndongo Samba Sylla, qui lui-même avait écrit un chapitre dans l'ouvrage collectif que j'avais co-dirigé avec Martial Zebelinga et Demba Moussa Dembélé, « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». Donc, il se base sur quoi ? Il se base sur le fait que, en 1963, Sylvanus Olympio subit un coup d'État, premier coup d'État militaire en Afrique après les indépendances, une semaine après que le journal officiel du Togo eut publié les statuts de la Banque centrale togolaise. et ainsi de suite en 1972, quand il y a eu la fronde des chefs d'État africains, notamment du Niger, du Togo, du Congo, on a vu que Pompidou, de retour à Paris, fin 72, demande qu'on renouvelle les accords de coopération monétaire, ce qui va être fait un an après, et qui va engendrer l'africanisation des cadres et le retour des banques centrales, dont les sièges étaient à Paris, rue du Colisée, dans le 8e, il faut le rappeler, en Afrique. Dakar pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et Yaoundé pour la Banque des États d'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au moment des crises, Paris fait tout pour que rien ne change. Et donc, je n'irai pas jusqu'à parler d'une thèse de complot, mais je dirais de toute évidence qu'il y a une ambiguïté de la part de Paris dans la gestion de cette affaire de la monnaie.
Alors, on a vu que vous aviez été limogé de l'Organisation internationale de la francophonie pour vos positions sur le franc CFA, que votre séjour au sein du gouvernement togolais a été aussi assez rapide. On imagine que c'est un peu aussi à cause de vos prises de position iconoclaste sur le franc CFA. Kakolo Bukpo, quelles sont vos relations avec vos collègues économistes de la BCAO, par exemple?
En tout cas, pour celui qui dirige la BCAO Togo, le directeur national, qui a organisé il y a quelques jours une conférence de presse avec un appui des collègues à lui venus de Dakar spécialement, c'était une session de mise à mort institutionnelle, si je puis m'exprimer ainsi.
Vous visant vous?
Ah oui, me visant clairement. Et du coup, j'ai pris la décision de...
Qu'est-ce qui a été dit?
Ben, des choses qui ne seraient pas indiquées de reprendre ici. Parce que, pour moi, nous devons toujours être dans le cercle de la raison. Et qu'on dirige des institutions, il faut avoir un niveau de langue qui soit en phase avec les responsabilités qu'on a. Et c'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte auprès du tribunal d'instance de Lomé pour des propos qui sont de caractère diffamatoire.
Cette plainte a été déposée?
Non, mon avocat conseil est en train de travailler dessus, ça le sera dans les prochains jours.
Et qu'est-ce que vous réclamez? Un franc CFA de dommages d'intérêt?
Ben déjà que des allégations mensongères qui ont été portées à mon encontre lors de cette conférence de presse, puisse être mise en évidence.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails de ces allégations, qu'on comprenne mieux?
Non, ça va être porté en justice, et la justice va régler ça.
Bien, on a compris qu'on n'en saura pas plus sur ce qui s'est dit. Julien Clémenceau, vous avez la parole pour une nouvelle question à Kakolo Bukpo, qui est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, dans cette émission Éco d'ici Éco d'ailleurs sur RFI.
Jean-Pierre l'a rappelé, vous avez été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques de 2013 à 2015 au Togo. Est-ce que vous étiez un ministre heureux? On a souvent l'impression que la marge de manœuvre des gouvernements est finalement très limitée.
Non, moi j'étais un ministre heureux parce que je m'occupais de la vision Togo 2030. Donc c'était de la prospective. Donc quels sont les avenirs possibles du Togo dans les 15 prochaines années, puisqu'on était en 2013 et 2015. Et je crois que c'est crucial, puisque la question est toujours d'actualité pour les pays africains. Et vous voyez fleurir des plans d'émergence. Je crois que ce qui s'est passé pendant la période de l'ajustement structurel, donc les 40 dernières années, c'était vraiment une confusion. C'est-à-dire qu'on a pensé que l'impératif de bonne gestion des ressources pouvait finalement suffire et qu'on n'avait pas besoin d'un projet de société. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que les dirigeants africains se disent « Mais comment on va aborder ce siècle qui a tellement de mutations ?» Et donc l'idée du projet de société revient. Et je crois que c'est fondamental pour recréer un lien de légitimité avec les populations.
Est-ce que vous voyez un pays africain qui aujourd'hui a ce projet de société, qui aujourd'hui parvient à réaliser ce que l'on appelle dans tous les rapports la croissance inclusive?
Il y a des pays comme le Ghana, l'île Maurice, le Rwanda, qui sont souvent cités comme des exemples, mais ils n'ont pas les mêmes modalités de fonctionnement. On a l'impression que le modèle rwandais, c'est le modèle du développement sans forcément de la démocratie.
Développement autoritaire.
Voilà, ça renvoie un peu au mode de gestion asiatique, si je puis m'exprimer ainsi. Le Ghana, c'est beaucoup plus de la démocratie et du développement. L'île Maurice, quelquefois on se demande si c'est vraiment l'Afrique. tellement ce pays arrive à concilier les exigences de bonne gouvernance, de redistribution de la richesse et de vie politique apaisée. Et donc, je crois que tout ça nous offre une palette de modèles. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'à chaque fois, que ce soit les populations elles-mêmes qui donnent qui indiquent la voie.
Est-ce que Maurice est donc un modèle pour l'Afrique ?
Ah oui, clairement.
Mais Maurice n'est pas exempt de corruption. Il y a quand même des affaires qui ont été levées là-bas et qui mettent en cause des politiques. C'est pas non plus la panacée, semble-t-il.
En même temps, j'ajoute à cette remarque de Julien Clémenceau que Maurice est le siège de sociétés qui font de l'optimisation fiscale en Afrique. Donc, est-ce que le développement de Maurice ne se fait pas un peu aux dépens du reste du continent ?
Oui, en économie, on parle d'optimum de second rang. C'est-à-dire que Maurice a créé ce qu'on appelle une flat tax, donc une taxe forfaitaire. Mais comme il y a beaucoup d'activités, elle arrive avec cette taxe forfaitaire à assurer un minimum de services publics. Moi, quand je prends la zone franc aujourd'hui, le taux de pression fiscale, il est de 15%, alors que la norme dans nos critères de convergence, c'est 20%. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à mobiliser suffisamment de recettes pour financer les dépenses publiques. Et donc, ça induit quelque chose d'ailleurs que je trouve paradoxal lorsqu'on nous parle de la stabilité de la zone franc, c'est que tous les rapports actuels du FMI pointent du doigt les risques d'instabilité financière. Pourquoi ? Ces rapports nous disent clairement mais les déficits budgétaires recommencent à augmenter, les déficits du solde courant de la balance des paiements augmentent et la dette augmente. Résultat des courses, il y a une fragilité, donc un risque de crise de la dette, mais qui va engendrer une crise du système bancaire parce que 30% du portefeuille des banques en zone franc sont constitués d'obligations souveraines. Et donc là, nous avons des soucis parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir renégocier une remise de dette. Pourquoi ? Les créanciers aujourd'hui ne sont pas les créanciers traditionnels. Ils ne sont pas au Club de Paris, comme la Chine. Et la plupart des créanciers qui ne sont pas souverains sont plutôt détenteurs d'obligations. Donc, on ne sait pas quel va être le coût de transaction pour les obliger à renégocier.
Vous faites partie de ces économistes qui s'inquiètent de l'augmentation de la dette et qui invitent les États à plus de mesures dans les émissions d'emprunt, par exemple ?
Bien sûr, et c'est pour ça que
C'est paradoxal parce que tout à l'heure vous ne disiez pas qu'il fallait de la consommation, lancer la machine. Il faut alors de l'investissement public aussi. Sans investissement, pas de développement.
Tout à fait. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il ne faut pas confondre une politique rigoureuse avec une politique néolibérale. On peut être keynésien et être rigoureux dans la gestion. Ça me paraît fondamental. Ce que je dis simplement, c'est que la stabilité qu'on nous vante tant, s'agissant de la zone franc, c'est peut-être une stabilité illusoire, dans la mesure où on voit que les taux d'intérêt sont très élevés. C'est bizarre parce que normalement, quand vous avez une monnaie forte et des taux d'inflation faibles, le prêteur ne court pas de risque de perte en capital. C'est pour ça que dans la zone euro, on emprunte à 1%. Et donc, dans zone franc, on emprunte à 10-15%. Et du coup, je me demande s'il ne faut pas que notre stabilité soit vraiment endogène.
Une petite question qui vous vise, vous personnellement, Kakono Bukpo. Votre parcours apparaît assez contradictoire. Vous assumez des positions de franc-tireur sur le franc CFA. En même temps, vous êtes en permanence à la recherche de positions officielles, ministre, membre du directoire de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez candidaté au poste de commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine. Est-ce que pour un économiste de votre qualité, de votre génération, il n'y a pas de salut hors de ces institutions ?
Non, ce n'est pas ça. C'est que moi, je suis quelqu'un de bonne foi. Je veux participer au développement de mon pays. Je veux participer au développement de mon continent. Et donc, la meilleure façon de prouver sa bonne foi, c'est de dire « je veux participer ». Après, on a des convictions. Ça nous vient de nos familles. Ça nous vient de nos tempéraments. Et chaque fois que mes convictions étaient en porte-à-faux avec les ambitions que portaient les institutions dans lesquelles je travaillais, j'ai préféré partir. C'est pour ça que vous avez oublié de dire que j'ai démissionné de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2003, alors que j'étais chef de service. Il aurait juste suffi que j'attende, et aujourd'hui je serai directeur, hein, quelque part. Mais vous savez, ma génération ne peut pas simplement pantoufler, remplacer celle des anciens colonisateurs et dire que cette population qui souffre, la population africaine, qui n'a pas le minimum vital, qui n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux dispensaires, aux écoles, par rapport à toute cette population, nos carrières individuelles ne devraient pas compter. En tout cas, moi, c'est ce qui me, mon action et qui me, mon engagement, c'est l'idée de la recherche permanente de l'intérêt général. Après, comme tout humain, j'ai mes défauts, mais je cherche dans l'obscurité ou dans une relative opacité, comme disait Frantz Fanon, ma mission et en essayant de ne pas la trahir.
Vous faisiez allusion à ce que vous a légué votre famille, à ce que vous ont légué vos familles. Parlez-nous de vos familles, de votre famille. Quel est l'héritage que vous avez reçu ?
Moi, je suis héritier d'une famille d'enseignants. Chez les Nouboukpo, on n'est pas riche. Je crains que je ne pourrais pas déroger à cette tendance lourde. On a de quoi vivre, mais on n'est pas riche. Et ce qui nous importe, c'est léguer le savoir, c'est participer à la vie politique, à la vie publique, à la vie sociale. Et je crois que, comme des millions de familles africaines, nous avons simplement l'ambition de ne pas trahir le rêve des pères de l'indépendance, nos pères, si je puis m'exprimer ainsi.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire ne pas sacrifier la dignité de l'Afrique sur l'autel de nos ambitions personnelles, de positions de rente, ce que moi j'appelle de la servitude volontaire. Moi, à la fin de ma vie, ce que j'aimerais laisser à mes enfants, c'est l'image de quelqu'un qui s'est battu pour l'intérêt général. Moi, c'est ce qui m'importe. Le reste, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Julien Clémenceau.
Avec la baisse des cours du pétrole, on a vu de nombreux pays, notamment en Afrique centrale, se trouver dans des situations budgétaires difficiles. Et on parlait tout à l'heure de soutenabilité de la dette pour certains d'entre eux, dont par exemple le Congo. C'est devenu très difficile au point de solliciter l'aide du Fonds monétaire international. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce besoin d'aller chercher de l'aide parce qu'on a finalement pas su gérer ses ressources?
Oui, vous comprenez mieux pourquoi je suis critique du CFA, parce que le paternalisme monétaire du CFA permet à ce type de régime de ne pas faire les ajustements nécessaires. Parce que quand vous voyez l'Afrique de l'Ouest francophone et l'Afrique centrale, vous voyez qu'il y a quand même deux cycles économiques totalement disjoints. Et l'Afrique de l'Ouest fait 6% de croissance actuellement. La CEMAC, Afrique centrale, fait 0% de croissance. Et on ne comprend pas pourquoi il y a le même taux de change entre les deux francs CFA et l'euro. Ça veut bien dire que cette fixité du change n'est pas quelque chose d'économique. Parce que si ça avait été économique, on aurait déjà dévalué le franc CFA d'Afrique centrale. Et donc, c'est tout ça qui me pose problème, la vérité des prix. On est dans un système néolibéral dans lequel, dès qu'on demande qu'il y ait la flexibilité du change des prix, on paraît être des hétérodoxes. Non, les orthodoxes purs vous disent que le prix est un indicateur de rareté relative. Si une économie est mal gérée, il faudrait qu'il y ait des signaux pour le montrer. Le taux de change en est un. Après, ce qui est dommage, c'est que, et c'est pas seulement au Congo, parce que même au Togo, quand vous observez le ratio dette sur PIB, nous étions à 82%, là nous sommes en train de descendre vers 75-74% du PIB, moins de 20 ans après les initiatives en faveur des pays pauvres très endettés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème
C'est-à-dire la dette augmente trop vite.
La dette augmente trop vite et on ne voit pas en face ce qu'on fait avec cet argent. Et c'est pour ça que moi, je plaide pour le contrôle citoyen de l'action publique. Et si on était plus transparent, peut-être qu'on mériterait, à un moment donné, le CFA tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
Et le recours au FMI, c'est une bonne chose pour les États ?
Il y a deux FMI, il y a un FMI que j'aime bien, c'est celui qui parle de la bonne gouvernance. Parce que personne ne peut faire l'apologie de la mauvaise gestion. Le FMI que j'aime moins, c'est celui qui dit que la bonne gouvernance, c'est forcément ce qu'on appelle la sortie des systèmes de l'État avec ses fonctions régaliennes, tout privatisé, tout libéralisé. Je trouve que c'est un raccourci qui est rapide.
Kako Nubuko, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique et nous abordons une nouvelle partie de cette émission. Vous le savez, Kako Nubuko, tous les ans à cette époque de l'année, c'est le Salon de l'agriculture à Paris. L'Afrique y est représentée. Écoutez ce reportage signé David Bachet à la porte de Versailles dans les allées du Salon de l'agriculture.
Ancien champion d'Europe du 400 mètres relais, Eliman Han fabrique depuis 6 ans des compléments alimentaires bio pour les sportifs et pour le grand public. Ce franco-malien a créé Foulbé et Kem, des produits à base de moringa et d'autres plantes traditionnelles récoltées et depuis peu industrialisées au Mali. Eliman Han.
Depuis 2 mois maintenant, nous avons mis en place une unité de production au Mali. La matière première vient de Kaï. Nous avons des fournisseurs aussi à Mopti et Sigasso. On travaille avec des coopératives et aussi des regroupements de femmes. C'est notre première participation au Salon de l'agriculture à Paris. On attend vraiment de faire connaître nos produits, de vraiment montrer au monde entier qu'au Mali, on peut faire des produits de très bonne qualité qui peuvent être commercialisés partout dans le monde.
Pour le moment, les compléments alimentaires Foulbé et Kem sont distribués dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest et en France, en pharmacie ou dans les magasins bio. Le Salon de l'agriculture parisien est une occasion pour les producteurs africains de faire connaître leurs produits et de trouver de nouveaux distributeurs. Alimata Koulibaly, productrice ivoirienne des pré-cuits GLP, en est à sa 4e participation.
Nous transformons les céréales, les fruits en farine de banane plantain. Nous avons également la farine d'igname, de patates douces. Nous distribuons déjà dans les grandes surfaces à Abidjan et nous voulons un partenariat fort avec un exportateur en France. Pour ça, nous sommes là et nous avons déjà des approches. Nous avons fait des réunions. On espère que cela va se concrétiser.
Qui est-ce que vous avez rencontré?
Ça, c'est le secret. C'est un importateur qui était déjà allé nous rencontrer en Côte d'Ivoire. On le retrouve ici. Donc, les choses vont aller plus vite.
Un reportage signé David Bachet du service économique de RFI dans les allées du Salon de l'agriculture parisien à la porte de Versailles. La transformation, c'est la panacée pour l'agriculture africaine, Kako Nubuko.
Oui, clairement, parce qu'elle permet de créer des emplois.
Ce qu'on a entendu là, c'est l'avenir de l'économie africaine?
Oui, c'est l'avenir de l'économie africaine, en tout cas l'avenir d'une grande partie de la population. Si on relève 3 défis, développer les capacités managériales, développer les processus de normalisation, parce que vous voyez bien que dans la transformation des produits, il y a une dimension confiance du consommateur qui est importante. Donc il faut arriver à normaliser la production de sorte que le consommateur, lorsqu'il va dans un supermarché, qu'il n'ait pas peur d'acheter un produit du cru. Et si par bonheur on arrivait à accéder à un marché plus grand, comme le marché européen, qu'on puisse répondre aux normes européennes. Et puis, 3e défi, c'est le défi du financement de cette transformation. Je pense que c'est le cœur, parce que la population africaine qui va être de 2 milliards en 2050, c'est un formidable marché si on arrive à transformer la matière première sur place.
Un des produits agricoles phares de l'Afrique de l'Ouest, c'est le coton, et ça tombe
vous
bien.
Vous en avez parlé tout à l'heure déjà, quelques mots.
C'est l'un de vos sujets favoris en dehors du CFA. Ça fait vivre des dizaines de milliers, des millions de cotonculteurs africains. Quel est l'état de la filière cotonnière en Afrique de l'Ouest? Comment fonctionne-t-elle?
À l'origine, c'était un double monopsone, c'est-à-dire que...
Monopsone.
Oui, un double monopsone, c'est-à-dire que les producteurs rassemblaient toute leur production et les vendaient à la société cotonnière qui était un monopole. Et ensuite, toutes ces sociétés cotonnières africaines revendaient à la compagnie française des textiles, la CFDT. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de double monopsone. Depuis lors, il y a eu des réformes des filières. Par exemple, au Burkina, on a 3 sociétés cotonnières. Donc, ça crée un peu de concurrence. Au Mali, on n'a pas encore pu privatiser la CMDT, qui est un État dans l'État. Mais La saison actuelle est très très bonne. On s'attend à des records de production au niveau du coton. Et du coup, on a des problèmes au niveau des capacités d'égrenage. Et ensuite, au niveau du placement de ce coton sur les marchés internationaux.
Il y a trop de production,
oui.
Non?
Oui, actuellement, il y a trop de production. On s'attend à des montants comme 800 000 tonnes, 900 000 tonnes au Mali, là où on avait des records de 500 000 tonnes il y a 10 ans. Au Burkina, c'est encore plus. Et donc, le pincement au cœur, c'est comment faire en sorte que ce coton fibre que nous exportons à 97% puisse être en partie transformé. Et moi, j'ai proposé, quand je travaillais à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la mise en place d'un pôle de compétitivité coton dans ce qu'on appelle le triangle Sénoufo, c'est-à-dire le sud du Mali, le nord de la Côte d'Ivoire et l'ouest du Burkina Faso, qui est vraiment la zone agroécologique la plus adaptée à la production du coton. Et là, on aurait mobilisé le centre de formation métier du textile de Ségou au Mali, le Serfitex, et l'université du coton de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, pour faire une sorte de zone pilote de compétitivité. J'espère que ça pourra se faire. À l'époque, la Banque Ouest-Africaine de Développement était assez frileuse pour nous accompagner, mais je crois que c'est aussi là des exemples pour montrer que l'Afrique peut transformer ses matières premières, faire preuve de coopération dans le sens de l'intégration sous-régionale. Et moi, je crois plus à ce type de projet concret où on essaie d'avoir toute une filière complète qu'aux grandes messes comme la zone de libre-échange continentale que tout le monde célèbre à l'heure actuelle et qui, pour moi...
C'est un projet vain ?
Ben, c'est encore une fois... des Africains qui célèbrent des promesses, quoi, au lieu de célébrer des réalisations. Ça fait 50 ans que nous célébrons des promesses. Ça ne veut rien dire, une zone de libre-échange continental. Pour faire quoi? Quels sont les éléments de transfert? Parce qu'il y a ceux qui vont gagner, ceux qui vont perdre. On n'a pas pensé au transfert de ressources. On n'a pas pensé à la vision. Quelle est la vision que portent les chefs d'État? Parce que si c'est juste la thèse du grand marché africain, on l'a connue avec l'Europe. Encore que l'Europe a fait des transferts importants avec les fonds régionaux qui ont permis à une partie de l'Italie et de l'Espagne de rattraper les pays les plus développés. Donc ce que je dis, c'est que actuellement on célèbre...
Pourquoi ce dispositif pourrait pas être possible en Afrique?
Ben parce que l'intégration, c'est d'abord une vision et ensuite des instruments. Aujourd'hui, nous avons des instruments sans légitimité et une légitimité sans instrument. Donc, les États n'ont plus les moyens, mais ceux qui ont les moyens, ceux qui sont au niveau supranational, ne portent pas de vision. C'est pour ça que moi, je crois plus au terrain, à la vérité du terrain, aider les jeunes à faire des innovations frugales, et les puissances publiques devraient plutôt aider à ce qu'on appelle augmenter la taille, faire le passage à l'échelle. Moi, je crois que c'est beaucoup plus là qu'on aura la prospérité.
Eh bien, Kakono Boukpo, vous aurez terminé cette émission par de la critique, par des propos iconoclastes, comme vous l'avez commencé. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, Kakono Boukpo, d'avoir accepté notre invitation. Cette émission a été réalisée et mise en image par Olivier Roux et Yann Bourdelas. Vous pouvez nous retrouver en version audio comme radio sur nos sites internet respectifs, www.rfi.fr et www.jeuneafrique.com ou sur l'application Pure Radio de RFI sur votre téléphone portable. Le mois prochain, un autre grand invité. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.